Je suis bien heureuse de faire s'épanouir des couleurs à partir des plantes. Le message, c'est aller cueillir les couleurs des végétaux pour s'émerveiller de ses beautés, mais en même temps, pourquoi pas récupérer aussi les propriétés de certaines plantes dans les textiles que l'on teint. Mais on peut aussi simplement faire des encres pour faire des peintures, des créations de peintures avec tout public. Je m'appelle Véronique Thierry, je suis guide naturaliste à la base, enfin biologiste de formation, et la vie a poussé à ce que je vienne m'installer dans le Vercors il y a une trentaine d'années maintenant, avec une association qui s'appelle Miltrace, qui est une association d'éducation à l'environnement et de protection de la nature. Et le fil qui m'a amené à développer l'atelier chlorophylle, justement, ben, finalement, ce sont les plantes, puisque j'ai toujours été passionnée par le monde végétal et la transmission, l'éducation, la transmission auprès du grand public. Et c'est pas si facile que ça d'arriver à transmettre une vraie émotion, une vraie connaissance, une vraie sensibilité sur le monde végétal. Autant il est très facile d'emmener les gens dans la nature à la découverte des animaux, tout le monde est partant, tout le monde s'émerveille devant une marmotte, mais s'émerveiller devant un pissenlit, c'est moins évident. Et pourtant, le pissenlit a tellement de choses à nous raconter, tellement de propriétés, tellement de rapports avec l'humain depuis la nuit des temps, que je trouve ça dommage de passer à côté. Et ce qui me plaît beaucoup dans tout ça, c'est de redonner du sens aux ressources locales, et par ce biais-là, participer à la sensibilisation à l'environnement. Parce que bah, le gros combat à travers ça, c'est l'industrie textile. C'est une industrie extrêmement polluante, dramatique du point de vue social pour les populations qui sont dans des pays en voie de développement qui travaillent le textile, qui font les cultures de coton extrêmement polluantes. Il y a toute une filière là, avec des produits chimiques pour teindre qu'on va retrouver dans les océans, des textiles synthétiques qui font des microparticules. C'est vraiment une grosse catastrophe environnementale. Alors plutôt que d'approcher le sujet par au-dessus en disant « stop, arrêtons de consommer des textiles », c'est pas possible, on est dans un monde où c'est la fast fashion, tout le monde est là-dedans. Je me suis dit bah, « moi je vais commencer par en dessous, ici, dans le Vercors, et je vais utiliser ce que j'ai autour de moi. Je vais me consacrer à la laine, parce que dans le Vercors, il y a plein de moutons, et donc il y a plein de laine ». Et étant donné qu'aujourd'hui, c'est un déchet, la laine de mouton, je me suis dit, ben, je vais essayer de participer à redonner de la valeur à cette matière première qui est extraordinaire. Voilà.
Là-dedans, tu as de la...
La toison que tu as devant les yeux, c'est une toison feutrée. Là, comme tu peux le constater, il n'y a pas de peau. À la place de la peau, tu as une couche de laine. En fait, ça, c'est de la laine feutrée. C'est vraiment l'étape la plus simple, la plus immédiate pour passer du dos du mouton à un objet fini. Ça, c'est la toison d'une brebis entière. Donc elle est assez
Et elle vient d'où, cette brebis ?
Celle-ci, c'est Saint-Agnan en Vercors. C'est une brebis
c'est vraiment local.
De race, voilà, Île-de-France. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, tu peux voir la tache encore rouge, là. C'est la peinture de marquage de la brebis. Donc cette brebis, en fait, elle a agnelé, elle a fait son agneau, et le marquage, donc l'éleveur m'a dit, bah, c'est parce que quand elle a agnelé, on a mis une marque sur la mère et sur l'agneau pour qu'on puisse les réapparier si jamais l'agneau est perdu. On saura qui est sa mère. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de la garder aussi, cette marque, ça a une histoire, quoi. C'est le travail qu'on essaie de faire avec mes copines, hein, mes collègues, c'est qu'on essaie de leur faire reprendre conscience que ça a de la valeur. Alors, pendant longtemps, la laine a continué à être vendue à des négociants en France, ça partait dans des filatures, ça faisait partie de la confection française, mais la laine a été détrônée aussi par toutes les fibres synthétiques, donc progressivement, les éleveurs ont été obligés de tondre leurs moutons, pour qu'ils restent en bonne santé. Mais cette laine est devenue un déchet. Autant dire que quand on va dans une ferme aujourd'hui et que, quand on participe à un chantier de tonte, bah, c'est sympa, ça fait des bras en plus. Plus de ça, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a plutôt un bon accueil parce que, globalement, ils se disent, bah, si on peut arriver à faire quelque chose de chouette avec cette matière, ils ont conscience que ça peut être une belle matière. Pas pour toutes les brebis. Il y a des brebis pour lesquelles vraiment la laine, à part faire du rembourrage ou de l'isolation ou du paillage, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ils voient bien que quand ils ont des mérinos, quand il y a de l'Île-de-France, quand il y a de la Tonnet-Marteau, ils voient bien que c'est une belle matière. Et voilà, ils sont contents de savoir que ça peut intéresser des gens et si on peut redynamiser quelque chose. Donc ça se passe plutôt pas mal. Après, il y a tout le volet artisanal de transformation de la laine, en partant de la laine brute, pour la laver, la carder, la feutrer, la filer, la tisser, tricoter, crocheter, enfin, tout ça, chaque fois, c'est un monde. Chaque étape peut être un monde en soi. Moi, j'adore balayer le tout. Enfin, je suis une avide de découvertes et de connaissances. J'adore tout expérimenter. Donc, ça fait un petit moment que je baigne là-dedans. J'ai retrouvé des plaisirs que j'avais quand j'étais petite fille. J'avais complètement abandonné. Et finalement, travailler la fibre, c'est quelque chose... C'est étonnant, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose, je pense, qui est un peu, comment on dit, atavique, je crois. C'est quelque chose qui est naturel chez l'humain. Alors, pour l'approvisionnement des plantes, il y a quatre choses. D'une part, il y a de la cueillette, donc dans le Vercors. Donc, ça peut être des feuilles, ça peut être des baies, voilà, principalement. Il y a du jardinage. J'ai un tout petit jardin où je cultive les fleurs qui permettent d'avoir certaines couleurs, comme le cosmos sulfureux, la camomille des teinturiers, des choses comme ça. Et sinon, j'achète ce que je ne peux pas produire ou récolter, comme la racine de garance ou le pigment d'indigo, des choses comme ça. J'achète le plus proche possible. Jusqu'à maintenant, j'achetais beaucoup à une association qui se trouve à Loris, le conservatoire des plantes tinctoriales, là où j'ai commencé mes premiers stages. Mais je suis bien heureuse avec ce projet Chlorophylle d'arriver à commencer à faire un peu réseau autour de moi. Et il y a une jeune femme, Lucille, qui habite à Saint-Julien en Vercors, qui a un projet qui commence à se mettre en place de production de plantes tinctoriales ici sur le Vercors. Donc j'essaye de m'approvisionner comme je peux chez elle, voire de diffuser ses propres plantes pour les personnes qui viennent en stage avec moi, qu'ils puissent s'approvisionner localement. Tu vois cette laine-là, celle-là, elle a été lavée. Et elle a été cardée grâce à cette machine. Et puis après, c'est ce que l'on pratique quand on fait les stages et tout ça. On apprend à préparer cette laine pour qu'elle accueille la couleur. Ça, c'est l'opération de mordansage pour qu'elle accueille la couleur. C'est un aimant à couleur, si tu veux. Et là, tu vois, là, j'ai fait du bleu il n'y a pas longtemps. Les autres couleurs que moi je pratique ici, c'est de la teinture par ébullition, c'est-à-dire qu'on fait comme une sorte de tisane, si tu veux, on extrait les couleurs des plantes dans de l'eau chaude, on met notre laine qui a été préparée dans ce bain et la couleur s'accroche. Donc j'attends que ça blouble et tout ça, je laisse refroidir dans le bain jusqu'au lendemain, et quand je reviens le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Je sais globalement vers quoi je vais, bien évidemment, mais à chaque fois je trouve ça fantastique. Et alors le bonheur, le grand bonheur, c'est quand je dose, parce que récolter ça prend du temps, donc je mets pas des quantités énormes de végétaux pour traindre un petit bout de laine et pour pouvoir finalement jeter tout mon bain de teinture après coup. Donc j'essaie de doser, et le grand bonheur, c'est que quand j'arrive, quand je retire la laine, qu'elle a une belle couleur et que l'eau est transparente. C'est-à-dire que tous les colorants ont migré sur la laine. Alors ça c'est une grande joie, quoi. Parce que tu te dis, voilà, j'ai optimisé l'énergie que j'ai mis à faire ça. Voilà. Donc là, tu vois, il y a marqué nuancier grand teint. Parce qu'en fait, les teinturiers du Moyen-Âge, eux ne s'amusaient pas à aller faire des cueillettes dans la nature pour teindre. Ça, c'est un truc pour le plaisir, hein. Moi, je prends du temps parce que c'est mon plaisir aussi. Ils ont sélectionné trois plantes. La racine de garance des teinturiers, c'est une plante d'une famille qu'on appelle les Rubiacées, qui est la seule famille en Europe capable de produire des colorants rouges. D'ailleurs, rubia, ça veut dire rouge en latin. Donc les couleurs primaires, rouge, jaune, jaune du réséda des teinturiers, ce qu'on appelle aussi la gaude, et le bleu, en Europe, c'était le pastel. Donc, et avec ces trois couleurs primaires, en fait, les teinturiers faisaient des tas de mélanges différents pour obtenir toutes les couleurs de la gamme, comme on peut faire en peinture, en fait. Ce à quoi ils rajoutaient quand même les galles de chêne et le fer pour tout ce qui est noir, couleurs très sombres, voilà. Ces couleurs-là qui ont été sélectionnées parce que les couleurs, justement, sont solides, c'est-à-dire qu'elles résistent au soleil, à la transpiration, au lavage. Une fois que c'est teint, ça bouge plus.
Donc là, on a un rouge bien vif pour la garance.
Voilà.
Et juste en dessous, il y a un rouge plus foncé, presque lit de vin.
Oui, parce qu'en fait, celui-là, il a été obtenu en nuançant le bain avec un petit peu de fer. Donc en fait, le fer a permis de faire virer ce rouge foncé à quelque chose de, je ne sais pas, bordeaux, lit de vin. Donc beaucoup moins concentré, tu vas avoir un rouge plus orangé, plus... Ça dépend si c'est des racines fraîches, des racines sèches. Enfin, tout ça joue la qualité de l'eau que tu utilises. Enfin, tout joue sur la nuance. Là, tu as le jaune. On ne peut pas faire plus jaune. Hein. Tu as un jaune franc, presque acide, quoi. Ça, c'est le réséda des teinturiers. La gaude. Là, tu as un vrai orange. En fait, là, dans ton bain de teinture, il y a eu un peu de garance, un peu de gaude. Et donc, tu peux avoir toutes les nuances d'orange entre le jaune et le rouge, selon les proportions que tu mets d'une plante ou l'autre. Donc là, on a encore le jaune plus le bleu. On a un vert. Et alors là, on passe à autre chose. On passe à deux plantes, enfin deux ressources de teinture que l'on ne connaissait pas en Europe avant la découverte de l'Amérique. Ce qui veut dire que ce rose fuchsia, il était très difficile à obtenir en Europe. Donc quand c'est arrivé, d'un seul coup, ça a été une mode phénoménale pour les gens qui avaient de l'argent et qui pouvaient acheter leurs couleurs. C'est devenu super à la mode. Et en revanche, le peuple n'a pas pu s'habiller avec ces couleurs-là, mais avait d'autres couleurs. Et d'ailleurs, à l'époque, les couleurs que tu portais sur toi étaient une indication de ton statut social. Quand tu teins avec des pelures d'oignons, des écorces d'arbres, des feuilles d'arbres, tu vas obtenir une gamme de couleurs. Quand tu teins avec de la garance qui s'achetait, du pastel qui s'achetait, là, alors là, c'est pas une plante, c'est la cochenille, qui est un petit insecte, t'obtenais une gamme de couleurs complètement différente, quoi. Et c'était, voilà, une indication du statut social. Alors voilà, tu vois, la cochenille, brute, et puis après, préparée, trempée dans de l'indigo.
Donc enfin, là, on passe du rose fuchsia au violet un peu nuit, au parme presque.
Voilà.
Ah, il y a des nuances incroyables.
Selon comment c'est préparé. Alors là, juste ça, voilà. Donc tu as vu, il y a les couleurs fondamentales, les couleurs solides. Et puis là, tu me disais, tiens, est-ce qu'on a les couleurs du Vercors? Tu vois, par exemple, le hêtre, qui est quand même l'arbre du Vercors, hein, le hêtre peut te donner ces couleurs. Alors, comment t'appelles ça?
Caramel.
Voilà, ok, on est d'accord. Caramel. Quand on nuance au fer, on obtient du noir.
Et alors là, attends, t'as utilisé le bois, la feuille, l'écorce.
Là, regarde, feuilles sèches. Enfin, je les ai récoltées vertes, mais je les ai fait sécher avant de les utiliser. En fait, ça, c'est des choses que j'ai faites à l'occasion d'une coupe, d'une taille.
Voilà. C'est une démarche assez expérimentale. Tu te balades, tu récoltes.
Voilà, je récolte. Ou alors, mon voisin taille un érable. Il y a trois branches par terre. Je vais récolter les feuilles d'érable, voilà, ça, c'est chouette.
Et donc il y a beaucoup d'émotions dans le processus, en fait, de la cueillette jusqu'à la fin, à la transformation, à la teinture.
Ah, bah oui, parce que partir se balader et revenir avec ce que tu sais qui va donner des couleurs, c'est quand même une grande satisfaction aussi, quoi. Donc voilà, et puis là, donc selon comment tu prépares, tu vois, là, tu obtiens aussi une sorte de vert...
coquille aussi.
Ouais, voilà. Et en fait, tous les arbres, ça va être un peu ça. Tu vois, quand tu pars des feuilles, le frêne, là, au lieu d'être dans du caramel, tu vas être dans du jaune. ça c'est l'érable, l'orme.
Donc là, ça, on voit à chaque fois, t'écris le saule récolté le 26 juillet 2017 au col du Rousset, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc là, il y a du chêne, le kaki, alors ça c'est une expérimentation, c'était un voisin qui avait un kaki, un pommier sauvage, regarde ces couleurs magnifiques, trop beau. Ça c'est des couleurs très automnales, quoi, magnifique. Le cornouiller sanguin, le noisetier, la viorne, l'antane, le prunelier. Voilà, en fait, tu peux en utiliser le troène, qui est magnifique, le brou de noix. Alors, hein, on est dans un territoire où le noyer est très présent, donc les feuilles, les brous après la récolte. J'utilise pas évidemment le fruit vert, hein, parce que sinon tu n'as plus la noix derrière, donc c'est un peu dommage.
C'est une pratique quand même assez reliée à, bah, aussi au rythme de la nature, quoi.
Oui, mais tu vois, j'ai fait un stage il y a 15 jours, 3 semaines, et en fait, on est allé récolter ce qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire des baies. Il restait les baies de troène, les baies de nerprin sur les arbustes, donc on a récolté ça. C'est quand même aussi ça, c'est de me dire quelles sont les couleurs que l'on peut récupérer sur un territoire donné, bon, moi c'est le Vercors, mais autour de soi, comment le territoire est marqué par sa couleur invisible, parce que c'est dans les végétaux, mais qu'est-ce que ça peut donner? Et donc je trouve ça assez sympa. Tu vois, j'aimerais bien vraiment faire une enquête ici, travailler sur, bon, le Vercors est peut-être un peu plus large, parce que dans le Vercors, je crois que ça a pas, c'était un territoire assez pauvre, donc la teinture, c'était vraiment pas la priorité. Il y a eu une petite industrie textile, hein, sur le plateau, et puis dans le Royan, hein, beaucoup d'industrie textile dans le Royan. Après, la teinture végétale, je pense qu'elle a été peu développée ici. Dans le Vaucluse, il y a eu beaucoup de garancières, enfin beaucoup de cultures de base de plantes tinctoriales. Ici, très peu. Peut-être qu'un jour, je prendrai une personne en stage pour m'aider là-dessus, pour vraiment retrouver ce qui, localement, a un lien avec tout ça, pour le revaloriser. Voilà, je fais un appel à Radio Royan, si quelqu'un est passionné par ça. Voilà, on peut essayer de voir comment mettre les choses en place. Une petite histoire, tiens, encore une petite histoire. Les baies de troène, en teinture, ça te donne ça. En encre, ça va te donner ça. On a un vert bleuté. Eh bien, autrefois, la rentrée des classes ne se passait pas début septembre. Elle se faisait fin septembre, parce que les enfants travaillaient à la ferme, les travaux des champs duraient. Donc, les enfants, quand ils allaient à l'école, une des premières choses, c'était « on va chercher les baies de troène », parce que c'est fin septembre, début octobre, que les baies de troène sont mûres sur les troènes. Et on pilait tout ça, et on faisait une encre. Et comme c'est une encre, pas chimique, mais organique, elle moisit, elle pourrit, donc tu es obligé d'en refaire régulièrement. Donc, ils récoltaient les baies pour l'année, et puis après, toutes les semaines, on faisait l'encre, on remplit les encriers dans le petit bureau pour écrire à la plume. Et ça, en fait, ça a dû marquer quand même des générations d'instituteurs, parce que, bon, toi, t'es jeune, mais moi, quand j'étais petite, on écrivait au stylo plume, avec des cartouches en plastique, là, mais c'était à l'encre bleue. On n'avait pas le droit d'écrire avec une encre d'une autre couleur. À l'école, on écrivait en bleu, quoi. Et ça, alors qu'en fait, on fabriquait plus notre encre du tout, hein, on achetait ça...
Ah, c'est incroyable, donc il y avait quand même une pratique un peu vernaculaire et populaire de la couleur, quoi, aussi.
Ah, je pense,
c'est un savoir,
oui,
assez répandu.
Certainement. Et puis, tous les gens, même dans les campagnes, ont toujours eu envie d'avoir des vêtements. Même quand tu récupères ta laine des moutons, t'es éleveur, t'as pas de sous, tu te dis, bon, bah, je vais récupérer ma laine pour me faire des pulls ou des chaussettes. T'as de la laine blanche. L'envie, c'est quand même, de temps en temps, de pouvoir varier. Donc, il y a des choses très simples qui se font. Tu peux teindre avec des pelures d'oignons. Tu déroules et t'en finis jamais, quoi, en fait.
Et du coup, toi, dans tes ateliers, quand on s'inscrit à un de tes ateliers, on vient teindre de la laine?
Oui, alors je fais différentes choses, hein. Je fais des ateliers de 2 heures pour des familles avec des enfants un peu petits, où là, bah, y a soit la magie des couleurs, on apprend à faire une encre à partir de quelques fleurs, ou bien on fait une petite balle rebondissante. Les enfants travaillent la laine, donc en fait, ils malaxent, ils patouillent avec de l'eau, du savon, ils mettent les couleurs qu'ils veulent, et puis hop, ils repartent avec une petite balle en laine. Là, c'est vraiment une première découverte. à des journées. Une journée où là, c'est pour des adultes avec des enfants de plus de 11 ans qui auront un petit peu plus de patience parce qu'on rentre un petit peu plus dans la technique pour être un peu capable de faire certaines choses tout seul quand on est rentré à la maison, savoir quelles plantes on peut récolter, tout ça. Jusqu'au stage, alors jusque maintenant je fais des stages de 2 jours maximum, je fais pas du perfectionnement, hein. je fais vraiment quand même de l'initiation, mais les stages de 2 jours permettent aux gens de repartir en ayant vraiment les bases pour être autonomes, pour refaire chez eux s'ils veulent les teintures par ébullition. Voilà, donc pour la teinture, y a ça, et puis pour la laine c'est pareil, là je fais des journées ou des choses comme ça sur le feutrage. Je suis en train de me dire que je voudrais peut-être faire des choses sur le tissage parce que ça intéresse bien. Voilà, je fais plein de choses et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est m'adapter. Ce que j'aime bien, c'est quand des gens ont des demandes. Puis à la limite, je fais un truc sur mesure, quoi. Mon objectif, c'est vraiment de transmettre. Donc si une personne veut venir seule découvrir quelque chose, c'est tout à fait possible. Donc voilà, moi je suis à l'écoute pour les gens localement. Alors bien sûr, je fais des choses pour les personnes qui sont là en vacances de façon ponctuelle, mais pour les gens locaux, mon but c'est ça aussi, c'est d'essayer de créer un petit réseau, des habitués. Peut-être qu'un jour, je ferai des cafés tricots ou quelque chose comme ça, s'il y a un ensemble de personnes qui ont envie de se retrouver pour travailler la laine ensemble, quoi.
Donc pour les auditeurs et les auditrices de Radio Royan, si vous avez des histoires de plantes, des histoires de couleurs ou des envies, vous pouvez contacter Véronique Thierry à l'atelier Chlorophylle. Donc ton site web c'est
atelierchlorophylle.fr.